La Banque de France se met en quatre pour aider les familles à boucler leur budget.
Une convention de partenariat vient d'être signée entre l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, et la Banque de France. Un signe fort pour les ménages de notre région, dont certains sont concernés par le surendettement. Explication ce matin avec Sandra Debu, directrice des particuliers à la Banque de France. Bonjour madame.
Bonjour, merci de me recevoir ce matin.
Avec joie. L'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, et la Banque de France ont renforcé leur coopération en faveur des personnes en difficulté financière. En quoi consiste ce partenariat, Sandra Debu?
Eh bien, on est très heureux que cette convention nationale avec l'UNAF ait pu être signée. En fait, cette convention, elle concrétise un travail déjà fait au niveau local avec nos partenaires des UDAF dans toutes les régions. Ce sont des gens qu'on connaît déjà assez bien et avec qui on travaille depuis de nombreuses années. En Haute-Garonne, par exemple, l'UDAF est représenté à la fois à la commission de surendettement et aussi au conseil départemental de l'inclusion financière. Donc concrètement, cette convention, elle vient officialiser un partenariat qui existe déjà sur le terrain et qui est très fructueux.
Et c'est une convention qui va durer combien de temps?
Alors elle est sur une durée de 3 ans, renouvelable.
Et elle consiste en quoi spécifiquement?
En pratique, en fait, cette convention, elle a pour but de renforcer, d'accentuer notre partenariat avec les UDAF pour améliorer l'accompagnement commun des publics les plus fragiles. En pratique, ça signifie qu'on va amplifier nos actions de formation envers les salariés des UDAF pour qu'on puisse faire mieux connaître la procédure de surendettement ainsi que nos services publics d'inclusion financière. Mmh. Et ça permettra aux salariés des UDAF de mieux accompagner les personnes en situation de difficulté financière.
D'accord, donc c'est plus à destination des salariés des UDAF que des familles elles-mêmes.
Oui, tout à fait. C'est un partenariat directement avec les personnes qui travaillent dans les UDAF.
D'accord. Et alors, les bénéfices d'une telle convention, quels sont-ils?
Eh bien, ça va faciliter encore les actions de formation, de partenariat qu'on a avec les salariés des UDAF en permettant d'avoir plus d'interactions pour préparer nos formations, les sessions qu'on met à leur disposition pour mieux connaître la procédure de surendettement. Et pour eux, ça facilite la préparation, par exemple, des dossiers de surendettement des personnes qui bénéficient de leur accompagnement, ou aussi de mieux orienter les personnes vers d'autres services publics d'inclusion financière que la Banque de France propose, comme par exemple accéder aux droits au compte ou bénéficier d'informations sur le fonctionnement des banques ou des assurances.
Mmh. Est-ce que ça permet aussi de toucher un public que vous n'auriez pas forcément touché si vous n'étiez pas passé par ces UDAF?
De manière générale, oui, le fait de passer par ces publics relais, c'est-à-dire par ces accompagnants, ça nous permet finalement de mieux accompagner la clientèle fragile parce que c'est assez difficile d'atteindre directement les personnes les plus en difficulté financièrement. Et ces personnes, comme les salariés et les bénévoles des UDAF, qui connaissent mieux, qui connaissent le terrain, qui sont très présents et qui ont vraiment un public d'accompagnés important, ils sont capables finalement de relayer ce que nous on met à disposition de ce public plus fragile pour en faire bénéficier le plus grand nombre.
Mmh. Donc voilà un partenariat, une convention qui est signée donc entre la Banque de France et l'Union nationale des associations familiales, une convention signée pour 3 ans. Parlons maintenant, si vous voulez bien, Sandra Debu, du surendettement. 17%, c'est l'augmentation du nombre de dossiers de surendettement déposés en 2022 dans l'ex-Midi-Pyrénées. Alors précisons que nous entendons par surendettement l'impossibilité pour une personne de faire face à ses dettes. Sandra Debu, comment expliquez-vous cette hausse de 17%?
Oui, alors vous avez raison, le surendettement il est en hausse cette année sur la région. Vous l'avez dit, sur la partie ex-Midi-Pyrénées de l'ordre de 17%, c'est à peu près la même tendance au niveau national. Et sur l'ensemble de la région Occitanie, on est sur une hausse plutôt de 20%. On a même des départements qui sont plus touchés que d'autres. D'ailleurs, le département seul de la Haute-Garonne, il a une hausse de 25% des dépôts de dossiers de surendettement par rapport à la même période de janvier à avril 2023. Donc effectivement, on a une hausse qui se constate sur l'année 2023-2024. Néanmoins, il faut voir qu'on n'a pas tout à fait encore rejoint le niveau d'avant la pandémie, en 2019. Or, cette année 2019, ça reste un petit peu notre année de référence pour suivre l'évolution du surendettement, parce que les années 2020-2021 ont été un petit peu particulières en raison de la pandémie et des mesures de soutien aux ménages.
Mmh. Et donc cette référence par rapport à 2019, elle vous dit que vous aviez finalement un chiffre de combien de dossiers de surendettement?
Alors en fait, en 2019, on était sur un nombre de dépôts dans l'année de l'ordre d'un peu moins de 140 000 dossiers sur l'ensemble du territoire. Et en fait, si on regarde une tendance plus longue, le surendettement, il est plutôt en décrue. Depuis 10 ans, le surendettement, ça a reculé, puisque en 2014, on avait plutôt 230 000 dépôts de dossiers de surendettement sur l'année. Et donc, en 2023, c'était plutôt 120 000 dossiers, deux fois moins.
Et oui.
Donc, en tendance longue, le surendettement recule. Et ça, on peut l'expliquer par deux raisons principales. D'abord, il y a eu des mesures de protection envers les débiteurs qui ont été prises. Je pense notamment à la loi Lagarde, qui a à la fois encadré le crédit à la consommation et qui a aussi facilité l'effacement des dettes avec la procédure qu'on appelle de rétablissement personnel. L'autre raison qu'on peut donner, c'est qu'on a aujourd'hui, sur ces dernières années, un marché de l'emploi qui est relativement plus favorable qu'il y a 10 ans, même si il faut souligner que le taux de chômage en Occitanie, il est toujours un petit peu plus élevé que la moyenne nationale.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quels sont les ménages concernés par ces difficultés de surendettement ?
Alors, le surendettement, de manière générale, ça reste le plus souvent le résultat d'accidents de la vie. Donc, des personnes qui ont connu des ruptures sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Si je dois vous donner plus de détails, on a un petit peu plus de femmes que d'hommes surendettés, avec surtout une grande majorité de personnes qui sont isolées. Les trois quarts des personnes surendettées sont des personnes qui vivent seules, qu'elles aient ou non des enfants. Le taux de chômage de ces personnes, c'est 3 à 4 fois plus élevé que le taux de chômage de l'ensemble des personnes. Et ce sont aussi très majoritairement des gens qui n'ont pas de patrimoine, qui sont locataires, voire hébergés dans leur logement. Et elles ont des dettes qui vont concerner à la fois des crédits à la consommation, mais aussi des arriérés de charges courantes, par exemple des impayés de loyer ou de chauffage.
Ah oui, oui, d'accord. Et alors, est-ce que cette typologie de ménage a évolué ces dernières années ?
Alors, c'est des éléments de typologie qui sont relativement stables dans le temps. Cela étant, depuis les dernières années, ce qu'on observe, c'est plutôt une recrudescence progressive des crédits à la consommation qui avait pas mal reculé, comme je vous le disais, ces 10 dernières années avec l'encadrement législatif. Là, sur la période récente, on a eu une importance toujours des crédits à la consommation, voilà, qui est un petit peu revenu sur le devant de la scène là, ces dernières années. On a aussi quand même une prévalence des charges courantes dans beaucoup de dossiers, notamment sur ce qui concerne le chauffage.
Voilà. Oui. Puisque vous parlez de ces crédits à la consommation, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, Sandra Debus, ce qui a permis qu'ils soient davantage protégés, enfin, en tout cas qu'il y ait moins d'abus ou de débordements?
Ce qui a essentiellement permis d'encadrer le crédit à la consommation, c'est de mettre une limite en fait, au temps d'endettement des ménages et donc du coup d'éviter qu'il y ait une superposition de nombreux crédits sur un budget qui ne peut pas payer les mensualités. Donc en fait, la politique de connaître son client, de know your customer, c'est comme ça qu'on appelle, c'est les établissements bancaires qui doivent un petit peu plus connaître leurs clients et donc éviter de délivrer des crédits pour des personnes qui ne peuvent pas forcément les soutenir derrière.
Ouais, donc les établissements jouent le rôle d'avertisseur en disant non, là, c'est plus possible d'ouvrir un nouveau crédit à la consommation, par exemple.
En tout cas, de le limiter, oui, tout à fait.
Et de le limiter, oui, c'est ça. Pour quelles raisons les ménages sont-ils surendettés, Sandra Debus ?
Les éléments qu'on peut donner là-dessus, c'est peut-être que, comme je vous disais, il y a des accidents de la vie, il y a des ruptures, en fait. C'est vraiment l'élément majeur qu'on retrouve dans beaucoup de dossiers. C'est-à-dire qu'on va avoir un budget qui fonctionne sur une situation donnée et puis un imprévu sur une incapacité de travailler, une séparation ou quelque chose, voilà, un événement qui va faire que le budget va être déséquilibré et on va avoir la tendance peut-être aussi à essayer de maintenir son niveau de vie parce qu'on a été habitué à un certain budget, sauf que finalement les ressources ne le permettent plus. Et c'est là que les personnes vont dans un premier temps essayer de maintenir ce niveau en rognant sur certaines dépenses. On va moins sortir, on va moins partir en vacances. On va peut-être faire un crédit justement pour pouvoir faire un achat qu'on avait prévu. Et puis petit à petit, si la situation ne s'améliore pas, c'est là qu'on peut rentrer dans le surendettement. Après, on va avoir aussi une population qui a structurellement un budget qui est déséquilibré, qui n'est pas en possibilité, ne serait-ce que de tenir vraiment l'ensemble de ses charges et pour lesquelles aussi les impayés peuvent s'accumuler.
Et alors, vous parlez justement de rogner sur certaines dépenses et notamment de moins recevoir, de moins sortir, etc. Et ça renforce aussi encore l'isolement
Tout à fait.
Des personnes.
Tout à fait, Isabelle. C'est effectivement quelque chose qu'on observe. Les personnes qui sont en situation de surendettement sont très isolées. Et c'est pour ça que les accompagnants, comme les agents des UDAF, sont très précieux dans cette perspective-là. Puisque ça permet aussi à ces personnes de constituer un dossier, d'être accompagnées dans une démarche pour améliorer et retrouver un équilibre dans leur situation.
Vous avez parlé, Sandra, de dettes à la consommation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des dettes immobilières qui peuvent gréver le budget des familles?
On a aussi un certain nombre de dossiers avec des dettes immobilières, mais ça concerne moins d'un dossier sur 10 sur la région. Et c'est effectivement des dossiers dans lesquels les personnes vont avoir des désendettements sur des périodes plus longues. On va dans ce cas adapter un petit peu ce qu'on propose pour traiter le surendettement. Mais ça concerne une minorité des dossiers. C'est un peu moins d'un sur 10.
D'accord. Comment les ménages de notre région se sortent-ils de leur surendettement? Quelles sont les solutions proposées?
Alors, sur les solutions qu'on propose pour traiter le surendettement, il y a principalement deux grandes catégories de solutions. D'abord, on peut proposer un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 7 ans. Concrètement, on va mettre en place un échéancier qui va permettre de régler petit à petit l'endettement et à l'issue des 7 ans, d'effacer l'éventuel reliquat. Ça va concerner à peu près la moitié des dossiers.
Et ça fonctionne.
Et ça fonctionne, tout à fait. La personne va suivre pendant 7 ans ses remboursements et ça permet vraiment de rembourser les créanciers petit à petit en faisant en sorte qu'on ne greffe, on ait cette fois des mensualités qui soient adaptées au budget de la personne.
Oui.
La deuxième option qu'on peut envisager lorsque la personne n'est pas du tout en capacité financière de rembourser, c'est de proposer un effacement total des dettes. C'est la solution qu'on va retenir dans un petit peu moins de 40% des cas. Et puis, il reste donc environ 10% des cas, comme je vous le mentionnais. Si les personnes possèdent un bien immobilier, on va proposer des réaménagements des dettes, mais sur des durées plus longues pour tenir compte des crédits immobiliers. Mais ça va concerner de l'ordre de 7 à 8% des dossiers.
Et quand il y a un effacement de la dette, est-ce qu'un ménage peut avoir, entre guillemets, le droit dans sa vie d'avoir plusieurs effacements de sa dette?
Oui, ça peut arriver qu'une personne bénéficie plusieurs fois d'un effacement de sa dette. En fait, il n'y a pas vraiment de contraintes ou de limitations dans la matière. Simplement, les effacements de dette, comme les dossiers de surendettement, donnent lieu à une inscription des personnes à un fichier d'incident qui s'appelle le fichier d'incident sur les crédits aux particuliers, le FICP, dont la Banque de France est l'administratrice. Donc l'effacement total des dettes entraîne notamment une inscription sur ce fichier sur 5 ans. Ce qui permet en fait aussi aux établissements bancaires d'être conscients s'ils reproposent des crédits que la personne a bénéficié de cet effacement. Ça n'interdit pas de bénéficier de crédits ou de redéposer un dossier de surendettement ultérieurement.
Oui, mais c'est une information quand même qui n'est pas négligeable à prendre en compte. Alors, on voit bien que vous avez vraiment cette attention pour ces ménages. Quel accompagnement proposez-vous spécifiquement en tant que Banque de France, Sandra Debu?
Alors, dans le cadre de l'accompagnement des personnes, on a à cœur en fait, d'accompagner les surendettés tout au long de la procédure de surendettement. Et à cet égard, il y a une nouveauté cette année, puisqu'on s'est donné pour objectif à la Banque de France de les accompagner encore davantage en les appelant avant et après le traitement de leur dossier. Qu'est-ce que ça veut dire? Appeler avant, en fait, ça a pour but de recueillir plus d'informations sur votre situation pour mieux traiter votre dossier tout au long de la procédure. Ça va permettre de mieux savoir où est-ce que vous en êtes, quelles sont les perspectives d'évolution favorables ou défavorables de votre situation. Et appeler après, ça va concerner les personnes qui vont bénéficier d'un réaménagement de leur dette. Les agents de la Banque de France en fait, vont prendre contact avec vous par téléphone pour vous expliquer comment concrètement mettre en place l'échéancier qui vous est proposé.
D'accord, donc là un service quasiment sur mesure, en tout cas un suivi qui n'est pas négligeable. Et ça peut durer combien de temps? Tout le temps du crédit en fait?
Ça va être au moment
de la période de
c'est au moment où l'échéancier est proposé, à la clôture du dossier, on va appeler. Une fois, par contre, on va prendre 15 à 20 minutes avec vous pour vous expliquer comment il va falloir faire pour mettre en place l'échéancier. Et ensuite, libre à vous de faire les démarches. Mais c'est au moment où le dossier est finalisé, on va prendre le temps de faire cet appel pour vous expliquer concrètement comment mettre en place les virements vers les différents créanciers et à quel moment vous devrez ensuite, mettons, créer un nouveau virement, etc.
D'accord, une vraie pédagogie. Alors, vous vouliez préciser, Sandra Debu, que vous avez une antenne dans chaque département et que vous souhaitez vraiment être accessible à tous.
Oui, tout à fait. On a à cœur vraiment d'être accessible sur tout le territoire et par des moyens variés pour que tout le monde puisse nous joindre. Donc, vous le disiez, dans chaque département, il y a une Banque de France qui peut vous recevoir à son guichet. Vous pouvez aussi, si vous voulez, nous joindre par téléphone. C'est le 34 14, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, sans interruption. Vous pouvez aussi nous contacter via notre site internet qui va vous permettre de faire vos démarches directement en ligne. Et enfin, vous pouvez bien entendu nous adresser des demandes par courrier.
Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité d'être accordées à Internet ou qui ne sont pas équipées, c'est toujours précieux de garder cette possibilité de vous écrire. Merci beaucoup Sandra Debut, directrice des particuliers à la Banque de France. Nous avons fait ce matin le point sur cette convention de partenariat signée entre l'Union nationale des associations familiales et la Banque de France, et puis le point sur le surendettement dans notre région. Bonne journée.
Merci beaucoup.